Girls Day, une journée pour briser les stéréotypes de genre dans les carrières scientifiques au lycée Astier. Pour cette journée, les filles de 3e du collège Roca et les lycéennes de 2e ont été regroupées en binôme pour une immersion d'une journée consacrée aux sciences et au numérique. Les jeunes ont participé à des ateliers interactifs, l'électronique, animés par le Centre des métiers et des qualifications du numérique de Valence.
On organise aujourd'hui une journée Girls Day scientifique pour leur faire découvrir les sciences et leur prouver qu'elles ont toute leur place dans les filières scientifiques au lycée Astier. Les filles s'empêchent dès la maternelle d'aller vers des filières scientifiques ou elles sont empêchées d'aller vers des filières scientifiques. C'est encore des clichés, c'est encore des stéréotypes qu'on traîne depuis des années et des années. Et nous, on a beaucoup moins de filles que de garçons. Et la proportion n'est même pas de 50-50, hein, c'est on a 2 filles pour 15 garçons. Et donc on s'est dit qu'on allait travailler sur ça, et notamment avec le collège Roca qui est juste à côté de nous. Et donc on a choisi de faire une journée avec nos filles de seconde, qui elles aussi ont besoin d'être ouvertes à ces filières-là, parce qu'elles sont ici, mais pour autant elles ne sont pas forcément ouvertes à ça. Et avec les filles de troisième. On travaille aussi avec le CMQ, donc Centre des métiers et des qualifications de Valence, autour des ateliers autour du numérique. Et pour ça on les a mis en binôme de 2, en trinôme de 3, pour qu'elles puissent se rencontrer, échanger.
Moi c'est Sabri, je suis chargé de mission attractivité en électronique et aujourd'hui je suis avec ma collègue Emma. Voilà. Et du coup nous on travaille au campus des métiers et des qualifications informatiques et électroniques de demain. Très rapidement notre rôle c'est de sensibiliser et de faire d'attractivité autour des formations électroniques et notamment auprès des jeunes filles comme vous. Étant donné que ces filières sont trop peu représentées du côté féminin, l'idée c'est voilà, de vous montrer que vous aussi vous avez votre place, qu'il n'y a aucun problème à se diriger vers ces filières là. Et aujourd'hui du coup on va faire un truc sympa, on va faire un caout. Un caout, c'est un quiz interactif. Du coup, là, bon, vous ne le voyez pas, mais c'est projeté au tableau. Et l'idée, c'est qu'il y a des questions qui défilent. Et ça peut être des vrais ou faux, ça peut être des questions avec des réponses multiples, ça peut être des jauges où il faut se rapprocher au plus proche du pourcentage possible. Et le principe, c'est que plus on répond vite, plus on a de points, dans le cas où la réponse est bonne et juste. Et voilà, il y a un classement qui se met à jour à chaque question. C'est vraiment interactif, c'est sympa, et généralement, ça plaît bien aux jeunes. C'est ludique, quoi, ouais, c'est le terme. Et du coup, aujourd'hui, on va faire un sur l'électronique. Celles qui ont leur téléphone, je vais vous laisser vous connecter tant que les autres arrivent. Parce que si j'ai bien compris, il y a des secondes et des troisièmes, c'est ça? Peut-être vous présenter rapidement le caout. Voilà, l'idée, c'est pas d'être expert. Hein. Il y a plein de réponses pour lesquelles je vais donner les. Plein de questions, pardon. Pour lesquelles je vais donner les réponses dans mes explications. Donc il va falloir que vous soyez attentifs. Et surtout, c'est des questions qui vont faire, pour la plupart, appel à votre intuition, à ce que vous savez ou alors à ce que vous pensez de l'électronique. Et on va aborder un peu tous les thèmes, que ce soit les composants en eux-mêmes, que ce soit la partie environnementale, la partie utilisation. L'idée, c'est de voir un peu tout ce qui touche à l'électronique et surtout que vous puissiez un peu faire un appel à vos connaissances. Donc voilà. Et notre héroïne, elle a créé son armure. Elle a créé son armure et selon vous, selon ce que je viens de dire, quel est le point commun entre son armure du coup et l'électronique du futur ? Premier point, mes premiers points, ils sont jetés, ils sont offerts, honnêtement. Du coup, c'est des composants qui sont invisibles, des composants miniatures, des composants recyclés ou alors des composants indestructibles. Faites gaffe au temps à chaque fois. Hein. Elle était offerte, celle-là. Ok, effectivement, c'est des composants recyclés. Ok, donc effectivement, elle a reproduit l'armure d'Iron Man avec des composants recyclés. Selon vous, là, on va faire un peu appel à vos connaissances, à ce que vous pensez savoir de l'électronique. Quel type de composant électronique a-t-elle utilisé pour fabriquer son armure ? Des résistances, des condensateurs, des batteries au lithium, des circuits intégrés, des diodes et des transistors. Petit indice, il y a 4 bonnes réponses. 4 sur 6. Effectivement, c'est des résistances, des condensateurs, des transistors et des diodes. Du coup, là, c'est important que vous écoutiez ce que je vais vous dire. Parce que là, mes explications, elles vont donner lieu du coup à 4 questions notées. Et si vous écoutez bien, vous avez les 4 points. Dans ces quatre réponses, du coup, on avait quatre composants. On va les prendre un par un. La résistance. Selon vous, du coup, une résistance dans un produit électronique, à quoi ça sert?
Je sais pas, c'est de là où elle sort la force, non?
Non. Ok, une résistance. Moi, j'aime bien l'imager un peu comme un robinet. Okay, un robinet, dès qu'on veut de l'eau, on ouvre à fond. Dès qu'on en veut moins, on baisse. Okay, la résistance, c'est pareil. Son rôle, en gros, c'est de résister, du coup, à la charge de courant électrique. Par exemple, prenons une ampoule, dès lors une LED, une ampoule. Dès lors qu'il y a trop de courant, dès lors que la résistance a lâché, et bien l'ampoule elle grille. Parce que l'ampoule a reçu trop de courant d'un coup en fait. Et la résistance, son rôle, ça va être de contrôler le flux de courant électrique qui passe dans un circuit. Ok ? Ensuite, on avait le condensateur. Le condensateur, du coup, il faut le voir un peu comme une petite batterie. Son rôle, ça va être de stocker l'énergie et de la libérer à un instant donné. Typiquement, un flash d'appareil photo. Imaginons que vous voulez prendre une photo, ben on met le flash, en une fraction de seconde le flash il s'actionne, et ben c'est ça, l'énergie elle est libérée comme ça d'un coup, ok? Résistance, résister au flux de courant, le condensateur, agir comme une petite batterie. Ensuite on avait la diode, ok? La diode son rôle du coup ça va être de laisser passer le courant que dans un seul sens, il faut l'avoir un peu comme un panneau sens unique, le courant passe que dans un seul sens. Et enfin on avait le transistor, et le transistor il a un rôle qui est double, son rôle ça va être soit d'amplifier, soit d'interrompre le signal électrique, ok? Si on la fait rapide, résistance, contrôler le flux de courant électrique. Condensateur, petite batterie, agir comme une batterie. La diode, laisser passer le courant que dans un seul sens. Et le transistor, amplifier ou interrompre le signal. C'est bon pour vous ? On va voir si c'est bon pour vous. Je t'en prie. Hein. Quel composant stocke temporairement l'énergie électrique dans un circuit ? C'était quoi déjà ? Faites attention au temps à chaque fois. Hein. C'était le condensateur, effectivement. Quel composant électronique permet à un courant de circuler dans une seule direction dans un circuit? Ah, vous avez tout répondu déjà?
Ouais.
Ok, effectivement, la diode. Question suivante. Quel composant électronique limite le flux de courant électrique dans un circuit? C'était la résistance. Et enfin, quels composants électroniques agissent comme des interrupteurs ou des amplificateurs de signal? Par élimination, en toute logique, tout le monde devrait l'avoir. Effectivement, c'était le transistor. Ok, on poursuit. Là, du coup, on va voir concrètement comment ça fonctionne. Selon vous, il y a une image qui va s'afficher au tableau, là. Quelle est cette ville célèbre pour la fabrication de composants électroniques semi-conducteurs? Santa Clara, Silicon Valley. Taïwan, je ne pourrais pas le prononcer, celui-là. Dresde, en Allemagne, ou encore aucune des trois villes. Bon, ça, quand même, nécessite de voir l'image, là. 10 secondes, bientôt. Vous n'avez pas fait attention? C'est une ville, ça? C'est carrément pas une ville. Hein. C'est quoi ça?
Une carte mère. Ou...
C'est une carte mère, effectivement. Ouais, c'est une carte mère. Vas-y, passe à la suivante. La carte mère, faut l'avoir vraiment comme nous, notre propre cœur. Okay, c'est dessus qu'on va brancher tous les composants, qu'on peut du coup comparer plus ou moins à nos organes. Et la carte mère, c'est vraiment le cœur de l'ordinateur, quoi, de l'élément. Et c'est sur elle que tout va passer. On va brancher tous les connectiques, tous les connecteurs, et que ce soit la communication ou encore une coopération vraiment harmonieuse entre tous les éléments, quoi. Selon vous, si vous avez bien écouté vos cours de physique, que se passe-t-il si l'on met une LED à l'envers? Elle brille plus, elle ne s'allume plus, elle devient une résistance ou alors elle produit du courant. 3 secondes, 2, 1. Passe-toi. Elle ne s'allume plus. Pour quelle raison? Vous avez dû le voir en physique, non? Dès lors qu'on veut faire un circuit, il y a toujours l'essence plus et moins. Et les LED, il y a toujours une branche qui est plus grande que l'autre. Ok? C'est simple, c'est juste une question de sens en fait. Ça passe que dans un seul sens, et si on met à l'envers, ça ne s'allume juste pas. Ok? Petit nuage de mots. Pareil, pas de points là, ok? Il n'y a pas de points là, c'est vraiment... Quels sont les appareils électroniques que vous utilisez le plus au quotidien? Si vous voulez en mettre plusieurs, mettez-les à la suite. Si vous validez, vous ne pourrez plus écrire après. Je crois qu'il y a des caractères un peu... Il y a un nombre de caractères maximum, il me semble. Ok. Smartphone, je suppose, ouais. Téléphone, téléphone ordi, tablette, téléphone, tablette, console. Qui a mis la console? Non, c'est bien, hein, mais je demande. Ouais. Ordinateur, téléphone, ordinateur. Ok. Ouais, bah c'est plus ou moins toujours les mêmes qui ressortent. Les plus classiques. Ok. Après, plus on va dans les... Plus on monte dans les âges, plus on voit voiture, machine à laver, cafetière. C'est la suite. Selon vous, quelle est la différence entre un téléphone, un signal, enfin on dit un téléphone, mais qui sera numérique ou analogique? Personne ne pourrait me répondre? Oui, j'attendais une réponse, hein, désolé. Je suis désolé.
Il ils attendaient que...
J'attends, oui, je suis désolé, j'attendais une explication de... Selon vous, le talkie-walkie qui est entre les mains, c'est du signal analogique, pardon, ou numérique, selon vous? Effectivement. Pour quelle raison? Vous allez me dire, parce qu'analogique, c'est avant, et numérique, c'est maintenant, c'est ça? C'est ça, la réflexion? Bon, dans les faits, c'est pas non plus faux. Mais il y a quand même un... En gros, c'est... Disons que c'est deux signaux électriques, ça va être la même chose. Sauf qu'il y en a un, du coup, que ça va être une onde qui va être, qu'on dit continue, proportionnelle au son, comme le son de ma voix, par exemple. Et ça va passer sur des antennes, notamment, c'est l'analogique. Alors que le numérique, ça va être une suite de chiffres binaires 0 et 1. Ce qui va faire que l'analogique, ça va être beaucoup plus sujet à des interférences, à des bugs, à des problèmes. Tandis que le numérique, on peut communiquer à l'autre bout du monde, à l'autre bout de l'espace avec, pas de souci. Du coup, voilà, effectivement, un téléphone analogique transmet une onde qui est électromagnétique, proportionnelle au son, qui est continue. Tandis qu'un téléphone numérique convertit les données en une séquence de chiffres binaires 0 et 1, permettant une transmission plus précise et résistante aux interférences. Du coup, là, on passe sur la partie qui est plutôt environnementale. Et là, je vais faire appel à vos connaissances. Quel est, d'après vous, le nombre de téléphones en circulation dans le monde? 2 milliards, 950 millions, 8,6 milliards ou alors 86,2 millions?
Si je me dis que tout le monde a un téléphone... Ouais.
8,6 milliards. Okay. Ça vous évoque quoi directement, là? Oui?
C'est pas plus que la population, du coup?
Si, absolument. C'est plus... C'est plus. À savoir que dans la population mondiale, il y a quand même aussi les nouveau-nés, les bébés. On peut estimer qu'avant 4-5 ans, il n'y a pas de téléphone, quoi. On peut estimer après, maintenant, aujourd'hui. Je pense que vous avez des frères et sœurs, peut-être, qui ont des téléphones. Ouais. Ou des tablettes, des trucs comme ça. Donc voilà, effectivement. Il y a plus de téléphones qu'il n'y a de personnes en capacité d'en avoir un dans le monde. Ça pose aussi un problème de surconsommation. Certaines personnes en ont plusieurs. Bon, après, c'est certains qui en ont dans le cadre pro, dans le cadre perso. Mais bon, voilà. Quoi qu'il arrive, il y en a beaucoup trop vis-à-vis du nombre d'habitants que nous sommes. Vrai ou faux? On passe un peu à notre du coq à l'âne, là, mais celle-là, je l'aime bien. Est-ce vrai que le volt est l'unité de tension qui sert à mesurer la tension électrique? Normalement, il n'y a pas de... C'est vrai. Oh, ça va, vous êtes chaud. Au lycée, ils le savent pas tous. Hein. Ok. C'est la suite. On revient sur l'aspect environnemental. D'après vous, un peu dans la même idée que du nombre de téléphones, combien de téléphones seront jetés cette année? 1 million, 100 millions, 20 millions ou 5 milliards? Jetés. 5 milliards. Bah, c'est des problèmes de pollution, du coup. Faut savoir qu'il y a des pays comme au Congo, par exemple, ou en Afrique un peu subsaharienne, où on va extraire les métaux rares, pardon. Ben là-bas, il y a ce qu'on appelle des cimetières, en fait, où on va avoir que des composants, que des métaux. Enfin bref, c'est vraiment des cimetières dans lesquels des enfants qui sont bien plus jeunes que vous, hein, travaillent en espérant, du coup, trouver des métaux rares. Parce que dans des téléphones, il y a un peu d'or, tout ça, mais c'est rien, c'est à une échelle minime, quoi. Mais voilà, c'est des énormes cimetières remplis de produits électroniques, dans lesquels il y a des enfants qui passent leur journée dedans en espérant trouver des trucs qui ont un peu de valeur. Donc voilà, ça pose des gros problèmes de pollution. Et il faut savoir aussi que la plupart des téléphones ne sont pas recyclés, ok? On passe à la suite. Petit curseur. J'aime bien celle-là. Selon vous, quel est le pourcentage de déchets électroniques qui sont recyclés dans les téléphones? Essayez de vous rapprocher plus ou moins du bon pourcentage. Il y a une jauge, hein. Il y a une jauge, une marge d'erreur en fonction du pourcentage que vous avez mis, pardon. Une seconde. 17. Quelqu'un l'a vu? Presque. Mais effectivement, 17% des téléphones recyclés. Encore un curseur, parce qu'ils sont bien ceux-là. Selon vous, quelle est la prévision mondiale annuelle de déchets électroniques d'ici à 2030 en millions de tonnes? En gros, ce que ça veut dire, c'est chaque année, combien de millions de tonnes de déchets électroniques seront jetés d'ici 2030? C'est pas un pourcentage, du coup, c'est en millions de tonnes. Mais c'est pas un pourcentage, du coup. Un indice, c'est beaucoup. Voilà. Pas que je voyais des 2, 3. Ok. Voyons voir. Effectivement, 74 millions de tonnes, pardon. Ok, passons à la suite. Nuages. Pas de points, rien du tout. Si vous aviez un super pouvoir pour réduire le déchet électronique, lequel serait-il? Voilà. Il n'y a pas de points, il n'y a pas de... On prend les bonnes idées, c'est tout.
Genre, tu sais qu'il pourrait sortir de la Terre. C'est bien avec ça. Absorbeur, tu peux voir un truc, tu veux?
Non.
Genre créer un gros trou noir là où on pourrait tout mettre.
Ouais, vas-y.
vois ce qu'on fait à l'astronomie.
15 secondes. Voyons voir vos bonnes idées. Reducto. Séparer les matériaux, les faire disparaître, tout réparer, créer un gros trou. Désintégration, état brut de matériaux, transformer et reducto.
Alors, il manque la fin.
Il y avait des
mots
noirs.
Trou noir.
Ah, grimper trop noir. On prend l'idée. Ok, merci les filles. On passe à la suite. Selon vous, quelles étapes du cycle de vie du téléphone ont un impact sur l'environnement et le social? Petit indice, pour les plus malines, il n'y a pas les 6. C'est pas les 6 à cocher. C'est entre 4 et 6. 5, 4, on va les faire un par un. Ok, on va les faire un par un et je vais vous demander de donner des exemples, si vous le voulez bien, si vous pouvez me faire cette faveur-là, bien sûr. Tout d'abord, l'extraction des matières premières. Il ou le souci, qu'il soit environnemental ou social? Oui.
Les machines qui sont utilisées, les employés qui sont mal payés?
Ouais, tout à fait. Ça va beaucoup être l'extraction hein, en Afrique ou en Amérique du Sud. Ok. Et là, effectivement, bah, c'est surtout du travail d'enfant, du travail très mal, voire peut-être pas rémunéré, on ne sait pas. Hein. Tu travailles dans des mines, enfin bref, vous imaginez bien que ce n'est pas drôle tous les jours là-bas. Donc oui, effectivement. Et après, dans l'aspect un peu environnemental, c'est toute la destruction des sites naturels, des sites protégés. Bah, tout ce qui est utilisation de l'eau, notamment. On ne s'en rend pas compte, mais il y a énormément d'eau qui est utilisée dans la fabrication de nos téléphones. Mais oui, tout ce qu'on peut entendre par pollution, de l'air, des sols. Ok. L'utilisation.
Le chargeur?
Oui, le chargeur, oui, si vous voulez. On peut le dire. Mais il y a autre chose encore, sur lesquelles j'aimerais bien vous emmener. Ok. Toutes les applications que vous utilisez, je sais pas, Snapchat, Insta, Netflix, c'est quoi ces applications? Toutes les données qu'elles engrangent typiquement, ben, Netflix, il y a des milliers de films, des milliers de séries, mais ça sert pas nulle part, c'est bien stocké quelque part. Dans le nuage en anglais, comment on dit le nuage en anglais? Le cloud. Le cloud. Et toutes ces données, typiquement nos mails par exemple, je sais pas si vous avez des adresses mail, si vous en recevez, peut-être des mails un peu de magasins, enfin vous voyez ce que je veux dire quoi, ce genre de mails promotionnels, ils sont stockés quelque part aussi. Et ça pose un problème, ouais.
Sur les data centers?
Absolument. Les data centers. Il est là le souci, en fait. Il faut savoir que si on prend tous les data centers du monde et qu'on calcule l'énergie qu'ils produisent, eh bien, ils produisent assez d'énergie pour alimenter un pays comme l'Allemagne en électricité. Je ne sais pas si on s'en rend compte, mais c'est énorme. C'est tout ça, c'est pour refroidir les data centers, qui chauffent ultra vite. Le transport, pas compliqué, hein, c'est tout ce qui est lié aux émissions de CO2. Le camion, l'avion, le bateau. Et la fin de vie, le recyclage, bon, on l'a vu, les téléphones ne sont pour la plupart pas recyclés. Donc voilà, c'est important que vous vous rendiez compte de ça. Oui, c'est ce qu'on avait dit de toute manière. Ce qu'on avait dit. Là, on les voit un par un, du coup, les problèmes environnementaux et sociaux. L'épuisement des ressources, l'exploitation humaine, le travail des enfants, la pollution de l'eau et de la terre, les data centers, la consommation électrique, la pollution. Tout ce qu'on a vu. Un petit curseur. Selon vous, combien d'éléments chimiques sont nécessaires à la construction d'un smartphone? Et par éléments chimiques, on entend les éléments qu'on va retrouver dans le tableau périodique des éléments. Dans ce tableau, il y a à peu près 110 éléments, si je devrais dire. Combien sont utilisés dans la fabrication d'un smartphone? 55. Quelqu'un l'a eu? On les voit là. On les voit ici. 55 éléments du tableau périodique des éléments qui sont utilisés pour la vitre, la dalle tactile, l'écran, la batterie, le boîtier ou encore les cartes et les composants. Petite question bonus là entre nous. Selon vous, mais je ne l'ai pas mis au tableau, selon vous, c'est lequel de ces éléments-là, entre la dalle, l'écran, la batterie, la carte et le boîtier, qui est le plus polluant à produire? Okay. C'était l'écran. C'est l'écran qui est le plus compliqué à produire, le plus polluant, parce qu'il y a beaucoup trop de couches, en fait, beaucoup plus que les autres. Ok, passons à la suite. Selon vous, combien de tours du monde un smartphone parcourt-il de sa conceptualisation à sa commercialisation? Ça parcourt 4 fois le tour du monde. Ok, vas-y, je t'en prie, passe à la suite. Là, du coup, on a une petite... C'est pour se rendre compte, en fait, de d'où sont faites les grandes étapes de la construction d'un smartphone. Du coup, l'extraction, ça va être en Amérique, oui, du Nord, dans une certaine mesure, mais surtout en Amérique du Sud et en Afrique. Les composants électroniques aux États-Unis ou aux États-Unis, c'est pensé, tout ça. Dans quel... endroit spécifique. Ouais, absolument, Silicon Valley. Mais bon, on voit que c'est surtout, surtout ici en Asie, en Chine, et dans une certaine mesure en France, notamment à Grenoble, il y a un gros pôle électronique, ok, avec beaucoup d'entreprises et une bonne activité électronique. Et l'assemblage, pareil, Chine, Asie. C'est ça. On voit qu'en France et à plus large échelle en Europe, on n'intervient pas trop en fait dans cette partie-là, dans la construction d'un smartphone, mais c'est pas que pour les smartphones en fait. On se rend compte que dans tous les produits qui sont plus ou moins technologiques, électroniques avancés, eh ben on est en retard en Europe, on est très en retard. Et en soi, c'est un problème dans le sens où on est dépendant de l'Asie, de la Chine. Il suffit qu'il y ait un bouleversement géopolitique,
COVID.
Voilà, typiquement une guerre, une pandémie comme le Covid. On se rend compte qu'en fait, on est vraiment en retard et on est surtout ultra dépendant. Je vous prends un exemple que moi, du coup, j'aime bien donner parce que je suis branché un peu PC et tout. Mais il y a des composants de PC qui coûtaient, avant le Covid, 150-200 €, qui sont montés à 1 000 € en fait, pendant le Covid. Vous voyez ? Donc voilà, pour rendre compte qu'on est ultra dépendant des autres pays, notamment de la Chine et de l'Asie vis-à-vis de l'électronique et du numérique un peu au sens large. Et que voilà, l'idée, c'est un peu de rendre sa souveraineté à l'Europe et à la France et de réindustrialiser dans des secteurs clés. Ok. Selon vous, comment pourrait-on réduire les émissions de CO2 des appareils électroniques ? En augmentant leur complexité, en réparant les composants et en récupérant les matériaux, en réduisant les déchets électroniques ou en prolongeant la durée de vie des appareils. Purée, vous êtes forte, hein ? Non, pour le coup, celui-là, on ne l'a jamais fait. Il y a toujours au moins une personne qui me mêle. Ok, effectivement. On peut réduire les émissions de CO2 en réparant les composants et en récupérant les matériaux. L'idée que les téléphones, quand on dit réparer, c'est que dès lors qu'un téléphone ne marche plus ou qu'on ne veut plus l'utiliser ou qu'il y a un problème, on le répare, on fait du reconditionné. Il y en a peut-être parmi d'entre vous qui ont un téléphone reconditionné. Ouais. Ça va, ça marche bien. Ça se fait bien maintenant. Ça se fait bien, on répare bien. Ou même un écran qui est cassé, on va le réparer. Enfin bref, pas tout simplement jeter pour jeter. Du coup, ça rejoint ça. Finalement, ça a plus ou moins la même chose, de réduire les déchets électroniques et enfin de prolonger la durée de vie des appareils. Ok. Après, on va aborder un concept par rapport à la dernière réponse. Le fait de réparer, d'essayer de recycler, ça, c'est ça en fait, c'est l'économie circulaire. C'est le concept d'économie circulaire. C'est un peu le contraire du « je consomme, je jette ». L'idée, c'est de faire au mieux pour optimiser les ressources et de réduire les déchets en fait. Donc voilà, ça passe par une gestion des déchets, ça passe par du recyclage. Typiquement, quand vous allez au magasin, il y a souvent des bacs où on peut jeter des piles, des trucs comme ça dedans. C'est pour éviter de les jeter. Donc voilà, gardez-le en tête, c'est important. Ok. Oh, ça va vite passer, désolé. Selon vous, une communauté pour promouvoir l'électronique du futur et sauver la planète, pourquoi ce serait une bonne idée ? Pour accélérer l'obsolescence programmée, pour diminuer la recherche et le développement, pour encourager l'innovation collective ou alors pour favoriser la découverte d'idées novatrices ? Qui peut m'expliquer ce qu'est l'obsolescence programmée ? Oui.
C'est le fait que les appareils sont programmés pour avoir une durée de vie plus courte, pour qu'on soit obligé d'aller en racheter un.
Absolument. Absolument. C'est ça l'obsolescence programmée, c'est le fait de programmer une sorte de durée de vie d'un appareil pour qu'à une date donnée, à un instant T, l'appareil ne soit plus en état de fonctionner et qu'on doit en racheter un. Ça s'est passé avec Apple notamment, et ils le font toujours, qui fait que sur certains appareils, vous ne pouvez plus avoir accès aux mises à jour par exemple. Et l'idée c'est que, alors que c'est techniquement possible, mais l'idée c'est que à partir d'un certain appareil, on n'a plus de mise à jour pour que ces personnes-là puissent repasser sur un appareil plus récent. C'est ça l'obsolescence programmée. Ok, on arrive sur la fin. Ok, merci les filles. J'essaierai de faire de cumuler les points des trois premières à chaque groupe. Et si on se croise en fin de journée, je vous dirai qui a gagné. Ouais, je pense que c'est vrai.
C'est pas seulement une journée autour des sciences, mais c'est aussi une journée pour découvrir le lycée. Le but, c'est aussi de voir qu'on est bien dans ce lycée. C'est un lycée qui est à taille humaine, un lycée familial et agréable. Et je crois que c'est important aussi pour elle, enfin en tout cas pour nous, de montrer que c'est ça aussi le lycée Astier. We'll be right back.